Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Ngong à la présentation.
Bonsoir, émission spéciale Dialogue entre Congolais. Dans un rapport publié hier jeudi, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires accuse à la fois les FARDC et divers groupes armés présents à l'Est de perpétrer les massacres des civils. Quelle analyse peut-on faire de ce nouveau rapport sur les violations de droits humains en RDC? Nos invités dans ce débat sont Jacques Djouli, professeur de droit, sénateur MLC et vice-président de la Commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières au Sénat, Jean Bouillou, juriste, député national PPRD et premier vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, Xavier Zébrouck, directeur adjoint du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité GRIP, une ONG basée à Bruxelles en Belgique. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Massacre des civils dans l'Est du Congo. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires est clair. Ces atrocités se poursuivent. Quant aux auteurs de ces crimes, le professeur Philippe Alston accuse les FARDC et divers groupes armés présents à l'est du pays. C'est l'essentiel du rapport qu'il a rendu public hier à Kinshasa à la fin de sa mission. Nous allons décortiquer ce document aspect par aspect. Je vous propose d'écouter Philippe Alston, rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, qui s'exprime sur la poursuite des massacres.
J'ai constaté qu'il y en a encore beaucoup des exécutions de la part de FARDC. Il y avait des incidents assez grands, des massacres, et il y a aussi beaucoup des incidents un peu plus isolés. Mais c'est clair qu'il y en a des problèmes sérieux de la part de l'armée, et il faut qu'on commence à développer une réponse intégrée, persuasive, à propos de ces problèmes.
Maître Jean Bouillou, bonsoir. Maître Bouillou?
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national PPRD et premier vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Comment vous recevez ce rapport de plus sur des exactions par rapport aux droits humains en RDC? Pas plus tard que ce mercredi, une coalition d'ONG nationales et internationales ont publié presque un rapport similaire encore.
Oui, d'abord la première réaction à dire, c'est que c'est un rapport préliminaire. C'est un rapport définitif. Le gouvernement va y réagir et apporter quelques correctifs, sans doute. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui commettent des exactions au front ou sur le terrain, au regard du droit international actuel, ils doivent être punis. Ils doivent être punis par le droit interne d'abord. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, que la Cour, les juridictions militaires ont été créées au front en vue de sanctionner ceux qui commettent des exactions. Alors, il n'y a donc pas à protéger ceux qui le commettent, parce qu'ils le commettent sur des citoyens qui ne sont pas concernés par la guerre. Et il y a plutôt à souhaiter qu'ils soient effectivement placés dans les conditions d'être jugés par les juridictions établies à cet effet. Voilà un peu ma première réaction à cet égard.
Professeur Jacques Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sénateur MLC et vice-président de la Commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières au Sénat. Vous venez de suivre Maître Jean Bouillou, c'est un rapport préliminaire et tous les criminels devront être jugés. Professeur Joly, nous avons des petits problèmes avec la ligne du professeur Joly que la réalisation va devoir retrouver. Xavier Zébrouck, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint du groupe de recherche et d'information sur la sécurité GRIP, une ONG basée à Bruxelles en Belgique. Comment vous recevez ce nouveau rapport par rapport aux exactions sur les droits humains en RDC?
Mais il y a des choses dans ce rapport qui sont connues depuis des mois et des années. Donc les FARDC tuent et violent des civils, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une révélation. C'est une confirmation et c'est toujours important de le confirmer et d'envisager ce qu'il faut faire dans ce domaine. Ce que je trouve intéressant et relativement nouveau, c'est que le rapporteur spécial souligne le conflit d'intérêts qu'il y a au sein de la MONUC qui est partie au conflit puisqu'elle appuie la FARDC dans des actions offensives, par exemple à l'occasion de Kenya 2, mais la monnaie contient également une composante droits de l'homme qui est supposée dénoncer les abus des rebelles et de toute autre institution en matière de droits de l'homme. Et là, le rapporteur spécial souligne qu'il y a un problème. Il faudrait que cette composante droits de l'homme ait son autonomie, de telle sorte que les dénonciations des abus commis par les militaires des FARDC puissent être rapides et connaître une punition, comme l'a dit M. Mbouyou, qui devrait intervenir beaucoup plus souvent et beaucoup plus rapidement.
Mais vous venez de dire que ce n'est pas la première fois que l'on a des pareils rapports. Pensez-vous que cette situation pourrait changer finalement?
Mais le problème est lié à la réforme de l'armée congolaise. À partir du moment où chaque fois qu'il y a un accord politique avec des rebelles, un grand nombre de ces rebelles est inclus dans l'armée congolaise, forcément, vous incluez des gens qui sont habitués à commettre des massacres, qui sont habitués à faire des viols. Et ils ne voient pas pourquoi leur attitude devrait changer alors qu'ils font partie de la FARDC. C'est là le drame, c'est là le problème criant qui se pose aujourd'hui aux forces armées congolaises, c'est que intégrer des rebelles, en théorie, c'est très bien, mais en pratique, si ça ne s'accompagne pas immédiatement d'une formation et d'un contrôle, à ce moment-là, on arrive aux excès qu'on connaît aujourd'hui.
Professeur Jacques Joly, vous êtes de nouveau en ligne?
Oui, je suis en ligne, depuis le début, je suis en ligne.
Voilà, comment vous réagissez-vous à ce rapport de plus, comme venait de le dire Xavier Zébrouck, pour mettre Jean Bouyou, c'est un rapport préliminaire qui pourrait subir des modifications, ainsi qu'avoir la réaction du gouvernement d'ici là, mais Xavier Zébrouck ajoute en plus le problème de la réforme de l'armée congolaise.
Oui, je crois que, comme je vous ai dit lorsque je suis intervenu, que ce soit préliminaire ou pas, la question est structurelle. C'est toute la philosophie de la formation et de la structuration des FARDC. Donc, depuis que nos forces armées interviennent sur le champ opérationnel, ces forces ont des difficultés à être, elles ne sont d'abord pas très professionnelles, malgré leur bonne volonté. Donc, à partir de ce moment-là, elles opèrent, étant donné qu'elles sont composées des anciens rebelles, pour qui le problème de respect des droits de l'homme, de professionnalisation, de conduite sur le champ, ne constitue pas nécessairement leur élément de force. Et en ces éléments de mauvaise formation de base ou de recrutement hétéroclite sur le fond des politiques, il y a la question logistique. Ces hommes sont sur le front, que ce soit dans les Ouélé ou à l'Ituri ou encore au Kivu. Très souvent, elles ne sont pas payées ou payées en retard. Et à partir de ce moment-là, cette masse d'éléments, c'est-à-dire une mauvaise formation, une formation non adéquate, la problématique de l'intégration confuse. Vous avez vu les gens du CNDP qui sont rentrés en 2 semaines de troupes d'occupation et appuyées par des forces étrangères, un élément de FARDC chargé d'opérer sur le même champ que là où elles ont commis, n'est-ce pas, des exactions. Et enfin, la question de la logistique de la FARDC. Et tout cela nous amène à la problématique de cette réforme dont nous voulons, mais dont les signes extérieurs ne sont pas très évidents.
Professeur Jacques Joly, il y a cet auditeur José qui nous écrit de Kikwit au Bandundu qui dit « Tuer des civils congolais, c'est ce qui est déplorable, mais s'attaquer, traquer et neutraliser les FDLR, c'est l'objectif des FARDC sur terrain. Que le rapporteur et les ONG cessent de frustrer les FARDC au risque de ne plus attaquer ceux qui désolent la population depuis 15 ans. Que disent ces chercheurs quand l'Afghanistan et les États-Unis d'Amérique bombardent les talibans, par exemple?
Mais je veux commencer par le fond. Lorsque les États-Unis font des dégâts collatéraux, il y a des enquêtes, n'est-ce pas, qui sont menées pour savoir quelles sont les causes de ces dégâts collatéraux et éventuellement corriger. Mais ce ne serait pas une bonne politique, n'est-ce pas, de nier ces faiblesses parce que ceux qui sont tués, ce sont des Congolais. Et la question des SDLR, si sur le plan objectif, constitue une priorité parce que ce sont des forces étrangères, mais elle ne doit pas être isolée de l'ensemble des questions de leur, je dirais, de l'efficacité opérationnelle, où il faut intégrer dans le plan opérationnel à la fois les objectifs militaires, mais aussi des impératifs de protection de la population. Ça, c'est une exigence dans tout plan opérationnel. Et je m'étonne que la MONUC, qui a reçu mandat dans la résolution subséquente des Nations Unies, de veiller sur cette question de la protection des civils. Cette question s'est posée lors de l'opération conjointe avec le Rwandais et avec le troupe de Ougandaise de LRA, et cette question reste prioritaire. Je ne comprends pas des opérations où on ne prend pas des précautions pour protéger les civils et que sur l'armée régulière ou encore les forces s'attaquent systématiquement aux civils comme représailles lorsque ces forces ont des problèmes sur le terrain. C'est inadmissible.
Voilà, nous n'avons pas un représentant de la MONUC dans l'émission pour vous répondre, malheureusement. Maître Jean Bouillou, je vais vous lire un extrait de ce rapport. Un manque de planification, de coordination et de coopération dans le cadre de Kimia 2 est à l'origine des tueries prévisibles et répétées, y compris des massacres dans le sud de Walikale et à Masisi perpétrés par les FDLR. Peut-on parler à ce niveau d'un problème lié simplement à la réforme de l'armée congolaise ou à la mauvaise préparation des opérations, de ces opérations militaires?
Bien, il faut dire que c'est une situation toujours de jour en jour plus complexe et c'est un terrain aussi complexe. On a bien beau en parler en dehors de là, mais celui qui est dans la jungle de la forêt qui doit chercher un FDLR ou un villageois ou des gens qui parfois se déshabillent ou qui prennent les habits des citoyens. En fait, il faut reconnaître que ce n'est pas aussi simple que lorsque nous en parlons du dehors. Mais ce que je voudrais surtout faire voir, c'est est-ce qu'il y a eu d'abord ces opérations sont décidées par qui? Généralement, dans toutes les négociations antérieures et même l'aboutissement à l'intégration des rebelles, c'est souvent le fruit de ces négociations, des conseils, d'organismes divers, y compris la MONUC et d'autres organismes qui interviennent souvent dans ce genre de négociations. Et donc le gouvernement, à un moment donné, est placé devant un choix. Ou bien vous intégrez ces gens-là pour faire la paix, ou bien vous les laissez comme ça et ils reviennent encore. Donc c'est des choix, je dirais qu'ils ne sont pas des choix irresponsables, c'est souvent des choix qui sont imposés par la réalité ou les impératifs de la négociation, et qui sont même conseillés. Ensuite, lorsqu'ils opèrent sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, la difficulté est évidente. Mais en troisième lieu, il faut quand même faire remarquer que du point de vue de la discipline militaire, et là je suis content que le professeur Ndjoli en parle, d'autant plus que lui aussi il a été membre de l'armée, il en sait le droit pénal militaire, et nous avons tous reçu cet enseignement du professeur Likouya, il est évident que c'est depuis l'époque coloniale que la mentalité de l'armée est d'opprimer la population. Ce n'est pas un fait simplement nouveau dû à des rébellions, c'est déjà quelque chose, j'en conviens, de structurel, mais de structurel depuis que la colonisation a considéré que l'armée était son instrument contre la population. Et alors cette mentalité, malheureusement, est restée jusqu'à après la colonisation et les rébellions qui s'en étaient suivies. Maintenant, quelle est la réaction du gouvernement face à ces indisciplines? Nous avons d'abord parlé de la cour d'appel militaire qui est sur le terrain, je ne sais pas comment on la dénomme encore aujourd'hui exactement, mais il est également aussi, il y a un cours de plan de formation. Il y a les Sud-Africains qui interviennent pour former certaines catégories, il y a les Chinois qui sont ici pour former d'autres catégories, il y a des Belges qui sont en train de former à Kindu d'autres catégories de militaires, et je crois que c'est ça les efforts que le gouvernement fait pour arriver demain après demain à avoir une armée plus structurée, plus disciplinée. Et ça, il faut aussi jeter un regard vers ces efforts-là et ne pas considérer que le gouvernement ne fait rien. C'est ce que je voulais ajouter à ça.
Voilà, avant de donner la parole à Xavier Zeebrugge, Maître Mbouyou, vous venez de dire que les différentes négociations ont obligé le gouvernement pratiquement à ouvrir des brèches pour accueillir d'anciens belligérants. Je vais vous lire un autre extrait par rapport à cet élément qui est contenu dans le rapport. Accordé à des individus tels que Bosco Ntaganda, Innocent Zimulinda, Sultani Makenga, Bernard Byamungu et Salomo Mulenda, un sursis provisoire pour quelques années seulement, nous dit-on, équivaut à tourner en dérision les droits humains. Aucun raisonnement stratégique sophistiqué ne devrait occulter ce fait.
Oui. Allô?
Oui, Maître Mbouyou, vous êtes en ligne.
Oui, prenons le cas de Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda, qui était pratiquement le chef des opérations de ce monsieur qui est arrêté au Rwanda, Kunda, Laurent Kunda. Mais ces gens-là, combien de gens ne sont pas allés saluer avec beaucoup d'honneur Kunda et Ntaganda quand ils étaient dans leur rébellion? Et après de nombreuses négociations, et vous savez combien c'était ardu, le gouvernement a dit « Ok, on va le mettre fin et on va trouver le moyen d'intégrer ces gens-là dans notre armée et le Kunda de trouver un statut pour lui ». Toutes ces négociations ont été conclues et finalisées. Surviennent alors les sorciers qui disent « Ah, voilà, il ne fallait pas intégrer ces gens-là parce qu'ils sont poursuivis ». Moi, je crois qu'ici, le gouvernement était placé devant une réelle difficulté entre mettre fin à la guerre dans cette région qui avait déjà ravagé tout ce territoire du Nord Kivu et accepter, dans l'intérêt de la paix, une intégration même partielle de ces forces-là au sein de l'armée. C'était peut-être le moindre mal, le gouvernement n'ayant pas atteint son objectif de d'anéantir la rébellion. Alors, nous connaissons le cas de Kunda, Ntaganda est resté, la Cour pénale internationale a dit « Ok, il faut nous l'envoyer ». Le gouvernement a estimé que la paix au Congo était beaucoup plus importante que le fait de remettre immédiatement ce monsieur qui est une part dans l'avancement de la paix, et je crois que c'est dans ce genre de solution qu'on est obligé de passer lorsque la situation est trop complexe. Aujourd'hui, la question revient couramment, oui, il faut que Bosco Ntaganda aille vite à la Cour pénale internationale. Bon, je veux bien qu'on en parle parce que les gens sont noirs, mais je ne veux pas que demain j'appelle encore qu'il y a une nouvelle rébellion dans le Nord Kivu parce que les gens de Bosco Ntaganda le réclament. C'est position difficile qu'il faut arbitrer.
Xavier Zeebrugge, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce niveau du débat? Vous venez de suivre Maître Jean Mbouyou qui dit que le gouvernement est dans une position un peu embarrassée. Voilà. Face à la paix, la sécurité dans le pays.
Oui, certainement, mais je pense que tous les acteurs sont dans une position très inconfortable. Parce que la grande conclusion qui ressort, non seulement de ces rapports, mais des faits que les Congolais peuvent voir tous les jours sur le terrain, c'est qu'aucun acteur, ni le gouvernement, ni les autorités régionales ou locales, ni la MONUC, ne sont capables d'empêcher ces exactions, même si de tous côtés, on a évidemment les meilleures résolutions possibles. C'est un petit peu la foire aux impuissants, si vous voulez. C'est que on constate, on n'est pas d'accord, on s'insurge, et on a raison de s'insurger, mais en même temps, on ne s'est pas donné les moyens de lutter efficacement contre ces massacres et ces exactions. Je voudrais simplement rappeler que au début de ce mois, le ministre de la Défense, Monsieur Andon Simba, a déposé un projet de loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées congolaises. Donc en fait, un projet de loi qui prévoit la réforme de la nouvelle armée congolaise. Eh bien, sans entrer dans les détails, lui-même reconnaît que la mise en œuvre de ce projet pourrait prendre 10 ans. C'est donc très long et il faudra beaucoup d'argent. Donc, je pense d'ailleurs qu'il a tout à fait raison quand il dit ça. Mais donc, vous voyez l'ampleur du problème qui va nécessiter une très longue action pour trouver une solution. Entre-temps, eh bien, la réalité sur le terrain, hélas, est hors de contrôle.
Xavier Zeebrugge, dans ce rapport, il est fait état du problème de la mauvaise préparation des opérations militaires. Partagez-vous ce point de vue?
Mais je pense qu'en tout cas, dans la citation que vous avez indiquée, c'est plutôt un euphémisme. Quand le rapporteur spécial dit « manque de communication et de coordination », bien sûr, il a raison, mais c'est bien pire que ça. La MONUC est maintenue à l'écart de toute la coordination et la planification de Kim Yadeu. Ils sont évidemment informés, mais en général, au moment où ça se passe, ou même parfois après coup, et ils sont informés surtout quand on a besoin d'eux, au niveau logistique et au niveau de l'appui-feu. C'est évidemment pas dans un cadre pareil qu'on peut à ce moment-là escompter une action optimum de la MONUC, notamment en prévenant d'éventuels débordements au niveau des massacres et des exécutions. Donc la MONUC, si vous voulez, arrive comme les pompiers après l'incendie. Et là, évidemment, il n'est plus possible de faire grand-chose. Donc, je pense qu'effectivement, là, il y a un des aspects sur lequel on pourrait jouer une beaucoup plus grande coordination entre les FARDC et la MONUC, au moins au niveau de Kim Yadeu.
Je vous invite à présent à suivre cet extrait de Philippe Alston, qui s'exprime cette fois sur la protection des populations.
Le Kim Yadeu, c'est une opération très importante, mais avec des conséquences assez catastrophiques pour les droits de l'homme. Et la leçon est qu'on doit changer le mode operandi. On doit faire ces opérations dans un mode différent dans l'avenir. J'aimerais voir une stratégie un peu plus sophistiquée pour protéger les populations civiles pour assurer eux qu'ils peuvent continuer leurs activités agriculturelles sans menace constante. J'aimerais voir une opération régionale plus intégrée que nous avons en ce moment parce que la RRA se trouve maintenant en plusieurs pays de la région et il faut adopter une stratégie assez différente, je pense.
Professeur Jacques Joly, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cet aspect de protection des populations, surtout lié à l'opération Kim Yadeu?
Ben, j'ai toujours dit, lorsque j'interviens au cours de ces émissions, que c'est très bien de proclamer chaque jour qu'on a pris telle base de FDLR, qu'on les a poussés. J'ai toujours posé le problème de la direction. Si l'objectif c'est de faire sortir les FDLR du Congo, ben, il faudra que l'opération parte du Congo vers le Rwanda. Mais là, on le repousse vers l'intérieur du Congo, c'est-à-dire là où il y a des populations civiles, dans le Maniema, dans la province orientale, et peut-être demain du côté du Katanga. Donc c'est déjà un problème au niveau de la planification globale. Deuxièmement, au niveau de l'exécution des opérations, comme le dit le rapporteur spécial, la problématique de toute opération de contre-insurrection exige qu'on puisse faire la part entre la population civile et les éléments, les insurgés qui très souvent d'ailleurs opèrent dans un milieu qu'ils connaissent. Les FDLR sont sur notre territoire depuis 1994, donc ça fait 15 ans qu'ils sont sur ce territoire et qu'ils y vivent. Donc le choix de céder à l'option rwandaise et même internationale de faire la guerre contre l'FDLR sur notre territoire, c'est cette option-là qui pose problème parce que ça transforme le Congo à une zone de permanence de conflictualité au moment où ces pays, que ce soit l'Ouganda et le Rwanda, sont un pays en paix. La province orientale, le Haut-Uele, le Bas-Uele, de Ango jusqu'à Dungu vers Farad, s'est transformé en une zone de conflictualité où chaque jour le LRA a changé de tactique pour prendre les jeunes filles, piller les villages, tuer les intellectuels, les abbés, sans que nous soyons capables de donner une réponse adéquate. puisque ces gens opèrent dans une zone allant de la République centrafricaine à passer par le Soudan, mais jamais ils n'opèrent en Ouganda. C'est la même chose sur les FDLR. Nous sommes d'accord que ces messieurs doivent être désarmés, ces messieurs doivent être poursuivis, mais le Rwanda est tranquille. Le Rwanda s'occupe du développement, mais nous, nous sommes en train de prendre nos peu de moyens et de faire la guerre chaque jour. Et le FNDP, qui est un allié du Rwanda, devient en deux jours, on les intègre tous, plus de 11 000 hommes, dans les FARDC, pour faire la guerre sur la même zone où ils combattaient, n'est-ce pas, le troupe congolaise. Et tout ça, ça crée des déplacés. On est dans le 1 200 000. Mais c'est un objectif stratégique de tous ces pays-là. Transformer le Nord Kivu et le Sud Kivu en zone de tir libre. Et le Congo doit comprendre que notre intérêt, ce n'est pas de faire la guerre aux FDLR, mais de les désarmer, au moins pacifiquement, et si nous ne parvenons pas, et bien de trouver une autre solution de faire la guerre tout en préservant la population. Donc, il y a des choix stratégiques qu'il faut faire et qu'il ne faut pas tomber dans la logique guerrière totale du Rwanda, mais cette guerre se passe malheureusement sur le territoire congolais. C'est ça le drame.
Maître Jean Bouillot.
Je souriais un peu à écouter le professeur Ndoli, parce que finalement, il veut vraiment qu'on mange sur les œufs sans les casser, ce qui n'est pas aisé. Il faut dire d'abord qu'il y a deux, qui quand même à bénéficier du point de vue de l'armée interne d'un encadrement, je dirais moi, optimal. Le chef d'état-major général qui est un militaire formé de l'école belge, de l'école française, et je crois que c'est un homme assez résolu, assez intelligent, et qui s'est basé pendant de longs mois dans le Kivu pour essayer avec son état-major d'encadrer le mieux possible qu'il y a deux. Et de ce point de vue, je ne peux pas dire que ça a été fait au hasard. Mais non, de l'autre côté, la MONUC, je serais tenté comme le général de Gaulle de dire c'est un machin, c'est un truc. Parce que chaque fois qu'il est requis pour une opération bien concrète, il faut, je pense, 12 mois pour avoir une petite autorisation vague de New York. Et c'est comme ça. Et quand on a besoin de la MONUC, on dit non, ce n'est pas notre mission, non, c'est le civil. Donc, la MONUC, c'est l'incertitude totale. Et là, peut-être, elle vaut ce qu'elle vaut dans le cas du conflit du Congo. Mais on ne peut en rien condamner l'armée congolaise, l'état-major de l'armée congolaise dans ses opérations. Vous l'aviez suivi dans le Nord Kivu dans la première opération, elle était présente, elle a donné des appuis.
Maître Jean Bouillon.
Oui.
Excusez-moi, je vais vous donner quand même la réaction de la MONUC en ce qui concerne le soutien au FRDC. Et au cours de son intervention à l'émission Dialogue entre Congolais mardi soir, le directeur de la division de l'information publique de la MONUC, Kevin Kennedy, a donné la position de la mission onusienne sur le rapport d'un collectif d'ONG faisant allusion aux opérations Kinia 2. Il dit ceci, je cite, ce que nous apportons en appui à ce gouvernement comporte bien sûr certaines obligations. La MONUC a clairement indiqué aux autorités congolaises que nous leur apportons notre appui, mais ce n'est pas un chèque en blanc. Quand il y a des unités FARDC qui se comportent mal, notre soutien pourrait être remis en question. Cependant, il n'est pas seulement question de sanctionner, mais de soutenir les efforts visant à instaurer la discipline au sein de l'armée et d'aider le gouvernement à mettre en place cette politique de tolérance zéro.
Bah, vous comprenez combien c'est tellement, disons, allégorique, hein, cette citation-là. Il y a du tout et du rien là-dedans. Finalement, vous intervenez ou vous n'intervenez pas. Quand est-ce que vous intervenez? Ce qui est vrai, c'est qu'il ne dépend nullement de nous, c'est-à-dire de l'armée congolaise, de la partie congolaise, de dire à MONUC venez ou ne venez pas, ou de mobiliser la MONUC. La MONUC, elle se mobilise, elle vous mobilise quand elle veut, et elle reste à l'écart quand elle veut. Donc je crois que c'est à juste titre que l'état-major de l'armée considère qu'elle ne peut pas faire des opérations en comptant sur la MONUC. Elle ne sait pas. Elle est imprévisible. On ne sait pas d'où viendra sa décision. Donc il faut faire comme armée des opérations en comptant sur vous-même d'abord. S'ils viennent, d'accord. S'ils ne viennent pas, mais vous avez pris vos dispositions. Moi je crois que cette option-là de notre armée est tout à fait responsable.
Voilà.
Parce qu'on ne peut pas contrôler la décision de la MONUC, on ne sait pas la contrôler.
Voilà, Xavier Zeebrugge, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce niveau du débat?
Je pense qu'il faut être plus nuancé sur la MONUC. La MONUC a un mandat qui est fixé par le Conseil de sécurité. Et donc, effectivement, ils doivent respecter leur mandat parce que sinon, ils perdent leur crédibilité et le gouvernement congolais serait fondé à leur faire des reproches. Donc là, il n'y a rien à faire, il faut respecter cet aspect-là. Mais l'ONDA indique bien que la MONUC vient en appui des FARDC à la demande de l'armée congolaise. Donc, on ne peut pas dire que la MONUC se mobilise quand elle veut, pas du tout. Elle ne peut se mobiliser qu'à la demande des FARDC. Si cette demande arrive au dernier moment, eh bien, évidemment, l'appui de la MONUC va arriver soit trop tard, soit au mauvais moment. Alors, bon, ça ne blanchit pas la MONUC de toutes ses actions. Elle-même est un organe assez lourd et assez complexe, ça je suis tout à fait d'accord. Mais il n'y a rien à faire. À la base, c'est évidemment l'armée congolaise qui est responsable de la sécurité sur son territoire, et c'est bien normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Pour abonder dans le sens de M. Joly, quand il dit il faut peut-être éviter de tomber dans la logique guerrière, je pense qu'il a tout à fait raison, parce que même si vous avez une armée intégrée qui fonctionne bien, vous avez affaire à des rebelles, les FDLR en l'occurrence, qui n'hésiteront jamais, au moindre de leur revers, à se venger sur la population civile. Donc, quelles que soient les actions militaires que vous entreprenez contre les rebelles, vous mettez la population civile en danger.
Mais Xavier Zébrouk, Maître Mbouyou a dit au professeur Joly qu'il voulait manger les œufs sans les casser.
Oui, mais il faut peut-être aussi, pour une fois, considérer la possibilité de négocier avec les FDLR. Vous savez, avant Kimia 2, il y avait Kimia 1. On en a beaucoup moins parlé parce que c'était beaucoup moins spectaculaire. Et c'était une opération qui consistait à discuter et à rencontrer les petits groupes FDLR et à voir avec eux à quelles conditions ils étaient prêts à désarmer. Kimia 1 a remporté des petits succès, évidemment, c'était pas très spectaculaire, bien souvent ça ne durait pas, mais c'est une option qu'on n'a pas suffisamment poussée. Et donc, moi, je continue à dire, il n'y a rien à faire, les meilleurs résultats s'obtiennent par la négociation, et pas en essayant d'imposer sa volonté à quelqu'un qui est aussi fort que vous.
Voilà, je vous invite à présent à écouter Philippe Alstom qui s'exprime sur le volet impunité.
Il y a un problème d'impunité au pays. On peut pas mettre le pays avant de la justice. On doit bouger en avance avec les deux choses ensemble. Il faut démontrer de la part du gouvernement qu'on va punir les militaires d'un autre rang qui sont les responsables pour ces crimes.
Professeur Jacques Joly, au sujet de l'impunité.
Bon, d'abord, avant d'entamer la question impunité, je voudrais rebondir avec votre autorisation sur la question des FDLR.
Très rapidement, je vous en prie.
Oui, très rapidement, parce que on ne peut pas avoir un schéma de solution d'une crise avec un volet strictement militaire. Que ce soit en Afghanistan ou en Irak, les grandes puissances aussi, comme l'Amérique, à l'État, n'est-ce pas, de revoir la copie pour avoir un volet politique. Comment pouvons-nous écraser totalement les FDLR? C'est une situation absurde, impossible, et il faudrait que la communauté internationale, à commencer par nous-mêmes, puissions dire quelle est l'autre face politique et diplomatique. C'est très important. S'il n'y a pas ces deux volets, mais c'est un sentiment de dernier recours. Que les FDLR vont, n'est-ce pas, estimer et s'attaquer à notre population qui devient victime, prise, n'est-ce pas, entre deux feux, le feu des FARC, des ex-FARC, plutôt, des FARDC et le feu des FDLR. C'est très important. Sur le volet impunité, je crois que cette question de l'impunité doit cesser d'être un slogan creux. On voit suffisamment comment les choses se passent ici, à l'Équateur ou ailleurs, où c'est une intolérance ou la tolérance zéro à géométrie variable. Mais sur la question essentiellement de femmes décédées sur le terrain. Moi, je suis un ancien magistrat militaire. Aujourd'hui, l'auditorat militaire ne constitue pas un élément fondamental. Et lorsqu'on a même vu le texte sur la réforme de l'armée, nous y avons insisté pour que dans le haut commandement, l'auditeur général et le premier président de la cour, d'ordre de la haute cour, soient membres de la haute cour, et même membres du conseil supérieur de la défense. Ce n'est qu'avec une justice militaire forte, capable, n'est-ce pas, de se poser face au commandement, de s'impliquer en tant que conseillère juridique, n'est-ce pas, de ce commandement, qu'on peut y arriver. Aujourd'hui, à qui sont, n'est-ce pas, arrêtés par la justice militaire? Quelques capitaines ou quelques colonels qu'on veut bien s'en occuper parce que la justice militaire est totalement déstockée et c'est une justice de mécanisme informel. Qui s'occupe de ces choses-là. Donc, il faudra réhabiliter la justice militaire réellement et qu'il y ait une volonté politique d'aller vraiment vers la tolérance zéro. Parce que ce n'est pas la première fois à Uvira, puisque les militaires étaient impayés, ils se sont attaqués à la population. Donc, il y a un problème de gouvernance globale du secteur stratégique et du secteur militaire. Et cette gouvernance doit partir par la réforme de l'armée pour que cette armée sache que c'est une armée redevable. Maître Mouy nous a dit lui-même, je vais terminer par là, que cette armée est une armée héritière, n'est-ce pas, de l'ordre public colonial.
Voilà, Maître Zambouyou, je vais vous lire juste un extrait, hein, vous demander une brève réaction avant de prendre la déclaration du chef de la MONUC à partir de New York que nous venons d'avoir tout à l'heure. Le rapport dit ceci: à travers le pays, la corruption endémique et l'ingérence politique font que l'argent et les connaissances peuvent vous éviter enquêtes, poursuites et jugements. Des jugements avoués, ça c'est au rapporteur, avoir reçu des menaces dans l'exercice de leurs fonctions et reçu des propositions de pot de vin. Maître Jean Bouillot, une brève réponse.
Oui, bon, évidemment, si nous le déplorons chaque jour, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de corruption, ni qu'il n'y a pas d'influence politique. Et je crois que toute la réforme collective qui nous concerne, que ce soit au niveau des institutions, au niveau de la mentalité, doit aller dans ce sens. J'étais heureux aussi de lire dans le livre du président Obama, au-dessus de Europe, qu'il revient sur cette question concernant le Kenya qu'il avait visité lorsqu'il était encore sénateur, et il conseille aussi également que l'Afrique sorte assez rapidement de ces questions de trafic d'influence et d'insuffisance de présence administrative réelle sur le terrain. Je crois que c'est un élément de notre effort collectif comme citoyen pour aller vers une société mieux organisée et structurée.
Voilà, je vous disais que nous venons de recevoir une déclaration du chef de la MONUC à New York aujourd'hui devant le Conseil de sécurité sur la situation en RDC. Je vous invite à écouter Alain Boss.
En général, les forces armées de la RDC, les FADC, ont fait des progrès dans leurs opérations contre les groupes armés étrangers et en particulier contre les FDLR, qui ont été repoussés dans la plupart des zones habitées et qui se retrouvent dispersés et affaiblis. L'intégration des groupes armés congolais se poursuit. Les personnes déplacées et les réfugiés sont en train de rentrer. Néanmoins, des risques et des menaces sérieuses persistent et nous devrions éviter toute complaisance. Les FDLR ont été dispersés, mais pas encore neutralisés. Les attaques menées par des hommes armés continuent dans les deux provinces du Kivu et dans la province de l'Oriental, où des éléments résiduels de la LRA montent des rades sporadiques. Le retour des personnes déplacées et des réfugiés, souvent après des années d'absence, provoque des tensions ethniques et des conflits fonciers. La violence sexuelle continue et représente un défi énorme. Et le retour de la sécurité a augmenté les attentes de la population qui veut maintenant voir un réel dividende de la paix.
Voilà, il ne nous reste plus beaucoup de temps, hein. Xavier Zeebrugge, je vous demande un bref commentaire sur ces propos d'Alain Boss, chef de la MONUC.
Ben, écoutez, très brièvement, je pense que, bon, peut-être pour des raisons diplomatiques qu'on peut comprendre, M. Ramdos insiste sur les aspects positifs des actions de ces dernières semaines. Mais, hélas, je pense que ça ne correspond pas beaucoup au vécu quotidien de beaucoup de Congolais du Kivu et du Haut-Uele. Donc, quand il dit qu'il y a des progrès qui sont faits contre les groupes FDLR, c'est vrai, il a raison, que ces groupes sont affaiblis, en tout cas ont dû reculer, et abandonner certains de leurs bastions, c'est vrai également. Maintenant, quand il dit « certaines menaces persistent », je pense que beaucoup de menaces persistent. Et on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais évidemment, les éléments de la FRDC qui font reculer les FDLR sont des unités où il y a beaucoup d'anciens CNDP. Et moi, on me dit que ces anciens CNDP reprennent le contrôle de beaucoup de mines à leur propre profit. Je ne vois donc pas véritablement que l'État congolais reprendrait la situation en main. Vous voyez, ça passe de rebelles actuels à d'anciens rebelles. Et donc, je crains, hélas, que la situation ne va pas se simplifier. Elle va simplement changer de propriétaire, mais la gestion et les problèmes des exactions vont perdurer, que ce soit par les FDLR ou par la FARDC.
Merci. Professeur Jacques Joly, un bref commentaire aussi, un très bref par rapport aux propos d'Alandos.
Ben c'est vrai, comme dit Xavier, il y a beaucoup d'approches diplomatiques, mais on ne peut pas non plus nier qu'il y a eu des actions de FARDC. Simplement, il faudra aussi dire que l'approche de FDLR, c'était d'éviter, comme le LERA, des affrontements directs avec le FARDC. Et ces groupes se désintègrent en petites unités, beaucoup plus mobiles, mais qui restent pas pour autant moins meurtrières. Lorsque l'FDLR a tué 12 personnes, ou les LERA prennent en otage 15 personnes, ben c'est déjà trop. Donc le problème, c'est d'avoir une vision d'une restauration de l'ensemble de l'autorité de l'État dans une approche qui ne soit simplement pas militaire, mais qui soit globale, c'est-à-dire que chaque fois qu'on prend une ville, ben qu'on retourne la police, l'État et le service de santé dans une dimension globale.
Merci.
Et là, c'est un jeu de yo-yo qui s'est fait aussi bien au nord Kivu sur Kivu, où l'air et l'air se déplacent d'une zone à une autre.
Professeur Joly, professeur Joly, concluez en un mot, je vous en prie, concluez.
En conclusion, nous espérons que finalement la communauté internationale et notre gouvernement pourront articuler un plan global, une offre globale de sécurité qui intègre aussi bien la dimension militaire rationnellement planifiée, mais une élection politique pour le règlement de problèmes des FDLR et des LERA qui ne sont pas des groupes congolais, ils sont des groupes ougandais et rwandais.
Merci, merci professeur. Merci professeur. Maître Jean Bouillou, un mot sur la réaction d'Alandos et aussi votre conclusion.
Oui, le propos d'Alandos apporte un peu plus de lumière sur l'autre côté que nous ne voyons pas souvent, c'est-à-dire l'apport positif des opérations malgré les effets collatéraux déplorés. Il y a donc tout de même, à travers ces opérations, quelque chose qui s'ajoute, c'est qu'on les déloge, on les rend vulnérables, on les renvoie dans les forêts, ce qui déjà les prive d'une assise d'organisation, malgré malheureusement les réactions qu'ils continuent à perpétrer en petits groupes. Mais en conclusion, je dirais qu'il faut effectivement, nous devons soutenir les efforts du gouvernement pour améliorer la gestion de l'armée et même davantage de moyens pour l'armée. À l'Assemblée nationale, nous sommes justement en discussion du budget et beaucoup de députés ont semblé critiquer le gouvernement parce qu'il a majoré les crédits accordés à l'armée et à la police. Et au vu de ce qui se passe sur le terrain, je crois que c'est à juste titre que le gouvernement prévoit pour 2010 beaucoup plus d'argent qu'en 2009 du côté de l'armée et de la police, et nous espérons que la gestion...
Merci Maître Mbouyou, désolé de vous couper. Xavier Zebrouk, votre conclusion en un mot.
Mais en un mot, c'est que, hélas, il y a encore beaucoup de travail à faire, aussi bien en matière de réforme du secteur de la sécurité, y compris d'ailleurs en matière de justice, et en matière de progrès concernant les droits de l'homme.
Merci, merci beaucoup Xavier Zeebrugge. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis, particulièrement à tous ceux qui, à partir d'aujourd'hui, ont la possibilité de nous suivre à Doungou en province orientale sur 103.4 MHz. Bon week-end à tous.